Vous écoutez On lit pour vous.
Pour chaque plant qu'on plante, ils en coupent 1000. Un texte de Valérie Simard, paru le 22 septembre 2025 dans la presse. Appuyé par des organisations environnementales, un citoyen de Boucherville appelle le ministère des Transports et les municipalités à revoir leur calendrier de tonte pour tenir compte de la protection des papillons monarques. Pour chaque plant qu'on plante, ils en coupent 1000, dénonce Roger Giraldot. Le 22 juillet 2025, un chant de désolation attendait M. Giraldot à la sortie 17, boulevard Marie-Victorin de la route 132 à Boucherville. Un espace vert où pousse un grand nombre d'asclépiades, plantes essentielles à la reproduction des papillons monarques, avait été fauché. Patrouilleur bénévole à la Fondation David Suzuki, il parcourt le territoire de Boucherville chaque jour de l'été pour recueillir les œufs de monarques qu'il sait menacés par la faucheuse. Cette année, sur ce terrain, il n'a pu en sauver que 6. « Je suis revenu le lendemain, c'était tout fauché », déplore-t-il. Il ne comprend pas ce qui justifie la tonte de ce terrain, sur lequel il a recensé principalement des asclépiades, de la renouée amphibie, du cerfeuil sauvage et très peu d'herbe à poux. D'autant plus que de l'autre côté de la bretelle de sortie, un îlot a été laissé intact. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD, a laissé cette parcelle en état à la suite d'une demande de la ville de Boucherville. La demande ne concernait pas l'autre îlot, ce qui explique qu'il a fait l'objet d'une tonte complète. Je comprends qu'il y a des endroits où c'est nécessaire de faucher, mais pas systématiquement, dit M. Giraldot. Ne pourrait-on pas attendre en octobre, au moment où les papillons entament leur migration vers le Mexique? Roger Giraldot ajoute qu'il trouve décourageant que des citoyens comme lui travaillent à planter des asclépiades, tandis que de nombreux plants sont coupés. Le ministère se défend. Le MTMD se défend de ne pas tenir compte de la protection des monarques et autres insectes pollinisateurs dans la planification de ces opérations et d'y appliquer le concept de gestion écologique de la végétation. De façon générale, il y a une préoccupation au sein du ministère pour s'assurer d'un équilibre avec l'environnement, soutient le porte-parole du MTMD, Nicolas Vigneault. On a un souci de laisser une certaine végétation. On ne rase pas tout. Il cite en exemple l'entretien des talus qui se résume à un fauchage annuel tard à l'automne. Cependant, selon les normes du ministère, 2 ou 3 tontes peuvent avoir lieu au cours de l'été afin d'assurer la visibilité des automobilistes, de contrôler l'herbe à poux et certaines plantes envahissantes et d'améliorer l'esthétique. C'est le cas dans plusieurs bretelles d'entrée et de sortie, ainsi qu'en bordure de route, où une bande allant de 1,5 à 3 mètres doit être dégagée. Il y a un aspect sécurité routière qu'on est tenu de respecter, argue M. Vigneault. Il ajoute que le ministère ne peut faire un inventaire de tous les sites de reproduction du monarque aux abords des routes, mais que si une demande lui est transmise, elle sera considérée. Un rôle essentiel. L'asclépiade joue un rôle essentiel dans la survie des monarques. Les femelles y pondent leurs œufs et les chenilles s'en nourrissent. Le fauchage en été, sur les bords de route où l'on retrouve de l'asclépiade, nuit directement à la reproduction du monarque, indique Maxime McKinnon, adjoint au développement des partenariats à la Fédération canadienne de la faune. La Fédération, la Fondation David Suzuki et Nature Québec appellent les municipalités et le ministère des Transports à adapter leur calendrier de tonte. Idéalement, il n'y aurait pas de coupe avant le départ des monarques pour leur migration en octobre, a précisé Nature Québec par courriel. Sur les terres fédérales, il est interdit de tuer un papillon monarque ou de lui nuire en vertu de la loi sur les espèces en péril. La tonte et le fauchage devraient être réalisés lorsque les monarques sont absents du Canada, généralement de novembre à mi-mai, précise Environnement et changement climatique Canada sur son site Internet. Consciente qu'une période si étendue peut être restrictive, la Fédération canadienne de la faune aligne ses recommandations sur la période de reproduction de l'espèce, ce qui constitue une approche plus réaliste aux yeux de Vincent Fison, écologiste spatial à la Fédération et co-auteur d'une étude sur le sujet publiée en mai dans le Journal of Insect Conservation. Dans la majeure partie de la province, la saison de reproduction des papillons monarques atteint son apogée entre le 1er juillet et le 15 septembre environ, indique-t-il, avec des variations de quelques semaines selon les régions. Que dit la science? Plusieurs études ont démontré les effets néfastes du fauchage d'asclépiades sur les œufs et les larves de monarques, mais des interrogations subsistent chez les chercheurs qui les étudient. Le biologiste canadien Tyler Flockhart, qui étudie le déclin de l'espèce, affirme « Il est certain que la tonte peut entraîner la mort directe des œufs et des larves de monarques si elle a lieu pendant la saison de reproduction. Mais l'effet de cette tonte et son incidence sur les populations de monarques ne sont pas bien connus. » Des études ont par ailleurs démontré que les monarques peuvent paradoxalement réagir positivement à un certain degré de tonte si elle est faite au moment opportun. Des études ont aussi révélé que les bords de route ne sont pas des milieux hospitaliers pour les insectes en raison du bruit, de la pollution et de la mortalité qui peut résulter des collisions routières. Aucune n'a encore pu démontrer si ces îlots de biodiversité tuent plus les insectes qu'ils ne les favorisent. Il s'agit là d'une question importante qui nécessite beaucoup plus de recherches, tant pour le monarque que pour l'ensemble de la communauté des insectes, indique Vincent Fison. Entre-temps, la restauration des habitats devrait se faire prioritairement sur les routes à faible vitesse et à faible trafic, et non le long des terre-pleins centraux où les insectes peuvent être incités à traverser. C'était « Pour chaque plant qu'on plante, ils en coupent mille ». Un texte de Valérie Simard paru le 22 septembre 2025 dans la presse.
La solution passe par l'assiette et le mental. Un texte de Catherine Enfield, paru le 25 janvier 2026 dans La Presse. Au Canada, plus d'un adulte sur quatre répond aux critères d'un trouble intestinal fonctionnel. Les examens ne révèlent aucune lésion, mais le fonctionnement des intestins n'est pas optimal. Constipation ou diarrhée chronique, syndrome du côlon irritable, ballonnement. C'est sans compter les nombreuses personnes qui souffrent d'inconfort passager. Dans ma spécialité, les troubles du transit et les douleurs et inconforts abdominaux constituent sans doute les plaintes les plus fréquentes, observe le Dr. Imran Mayer, gastro-entérologue et professeur à l'Université de Californie à Los Angeles, joint par la presse. Nutritionniste diététiste en santé digestive, Audrey Cyr est souvent appelée en clinique à normaliser le transit intestinal. Ce n'est pas tout le monde qui va à la selle une fois par jour après le déjeuner, résume-t-elle. La fréquence normale varie de 2 à 3 fois par jour à 2 à 3 fois par semaine. Certaines personnes sont aussi à la recherche du caca parfait, constate Audrey Cyr. Le numéro 4 sur l'échelle de Bristol, le serpent lisse, précise la nutritionniste qui déconseille d'avoir ce genre de cible précise. Constipation. Commençons avec la plainte la plus fréquente, la constipation chronique. Selon les études, entre 10 % et 20 % de la population correspond aux critères. À ceux-là, le gastro-entérologue Imran Mayer recommande d'abord de s'attarder à leur alimentation. Le Nord-Américain moyen consomme en moyenne 15 grammes de fibres alimentaires par jour, alors qu'il devrait en prendre au moins 25 grammes, femme, à 38 grammes, homme. Optez pour un régime varié et riche en aliments d'origine végétale et en aliments fermentés naturellement, propose-t-il. Mais attention, allez-y graduellement. Audrey Cyr recommande à ses clients d'augmenter de 5 grammes à la fois pour donner le temps au microbiote de s'adapter. Les bactéries assurent une bonne partie de la digestion des fibres. Gastro-entérologue et professeur à l'Université de Montréal, le Dr. Michael Bouin souligne l'importance d'écouter son corps. Quand le rectum est plein, les nerfs de celui-ci renvoient l'information au cerveau. Parfois, le moment est mal choisi et l'humain a la possibilité de repousser le moment où il ira à la selle. Quand on diffère tout le temps, ça favorise la constipation, prévient le docteur Bouin. Le cerveau, en quelque sorte, peut cesser de tenir compte de ces informations, mais ça peut se réapprendre, nuance-t-il. Le côlon se conditionne plutôt facilement, souligne le gastro-entérologue, qui donne l'exemple du chien lors de sa promenade. On peut donc y aller à une heure régulière, dans de bonnes conditions, sans être dérangé ni stressé, résume le docteur Bouin. Et quand un enfant a envie, même si c'est l'heure de manger, il faut le laisser y aller. Plusieurs facteurs, dont le stress. Plusieurs autres facteurs favorisent la constipation. La déshydratation, la sédentarité, un sommeil irrégulier, certains médicaments et maladies, et le stress. De manière générale, un stress intense favorise la diarrhée. Le docteur Bouin donne l'exemple de l'achalandage aux toilettes chimiques avant un marathon et de stress chronique et la dépression, la constipation. Auteur du livre « La connexion cerveau-intestin », le docteur Imran Meyer s'intéresse à la manière dont le cerveau et les intestins interagissent. Plusieurs bonnes études ont montré que le stress et les émotions négatives créent des schémas précis de motilité et de sécrétion dans les intestins que la plupart des gens ne perçoivent pas, sauf si on y est plus sensible, rappelle le docteur Imran Meyer. Les différences de sensibilité dans les intestins varient considérablement d'une personne à l'autre, dit-il. Sur 100 personnes qui subissent le même stress, 90 se sentiront un léger inconfort, tout au plus, mais les 10 autres auront une réaction exagérée. Des contractions qui provoquent de la douleur, des ballonnements, de la distension, de la constipation, énumère le docteur Meyer. Des symptômes découlent de ce yin et yang, c'est-à-dire de la sensibilité, puis de la réactivité accrue de votre système, explique-t-il. D'ailleurs, un pourcentage important de patients constipés souffrent de constipation dite sensorielle. Ils se sentent constipés, mais leur transit gastro-intestinal est normal. Et la diarrhée? N'est-ce pas un symptôme qui dépasse le cadre des sensations? Le cerveau, rappelle le docteur Meyer, est une machine qui anticipe. Selon lui, la crainte d'avoir de la diarrhée peut générer une forme de cercle vicieux. Le cerveau anticipe ou prédit, puis il envoie des signaux à l'intestin. L'intestin commence alors à réagir et les mécanismes sensoriels dans l'intestin en informent le cerveau en retour. Aux gens qui souffrent de diarrhée chronique, une fois toute pathologie écartée, le docteur Meyer conseille de travailler à devenir plus conscient de son stress et de son anxiété. La respiration abdominale profonde est une technique très simple pour envoyer un signal de relaxation au cerveau, dit-il. Le modèle qu'il propose pour faire face aux troubles intestinaux fonctionnels incorpore de la thérapie cognitivo-comportementale et de la réduction du stress basée sur la pleine conscience. En voyage. En voyage, le transit intestinal peut s'accélérer pour certains et ralentir pour d'autres. C'est lié essentiellement à des facteurs stressants, explique le docteur Michael Bouin. Changement de nourriture, d'horaire, de sommeil. Je pense que le cerveau perçoit aussi un petit stress, ajoute le docteur Meyer. La nutritionniste Audrey Cyr, de la Clinique Santé Digestive, conseille parfois à ses clients de prendre un supplément riche en fibres en voyage. Certaines souches de probiotiques peuvent aussi aider, dit-elle. Bien qu'une alimentation riche en fibres soit l'idéal, les laxatifs demeurent sécuritaires, rappelle le docteur Bouin. Il n'y a pas d'accident avec les laxatifs et pas de dépendance non plus, conclut-il. C'était « La solution passe par l'assiette et le mental », un texte de Catherine Enfield, paru le 25 janvier 2026 dans La Presse.
Neuf faits délicieux sur le gâteau aux fruits, un texte commandité, paru le 1er décembre 2025 dans La Presse. Il fait l'objet de moqueries et de mépris, et il peut même compter sur une journée nationale pour le lancer à bout de bras le 3 janvier. Il réapparaît pourtant chaque année signe que, en quelque sorte, des gens doivent bien en acheter. Bref, aucun autre dessert ne soulève autant les passions que le gâteau aux fruits. Voici quelques morceaux de son histoire qui pourraient vous surprendre. C'est un dessert millénaire, une recette datant de l'Empire romain, décrit la Satura, un dessert dense et riche qui rappelle certains aspects du gâteau aux fruits moderne. Cette préparation sucrée combine farine d'orge, noix, haricots de grenade, raisins secs et vin de miel. Il est long et compliqué à cuisiner. La recette varie considérablement d'une famille et d'une région à l'autre, mais elle comprend habituellement du beurre, de la farine, des œufs, de la cassonade, des raisins secs, une variété de fruits confits et séchés, des noix, des épices, ainsi qu'une quantité généreuse d'alcool. Il faut savoir que le gâteau devrait contenir davantage de garniture que de pâte. Les fruits macèrent dans du cognac, du rhum, du whisky, du xérès ou de la liqueur d'orange pendant plusieurs jours. Ensuite, le gâteau est cuit lentement, à basse température. Le tout étant fait emballer dans des cotons à fromage ou étamines, arrosé d'alcool toutes les deux semaines, puis vieilli pendant au moins un mois, idéalement un an, afin d'obtenir une texture encore plus moelleuse et un goût plus riche. Il a déjà été illégal. Au XVIIe siècle, Oliver Cromwell, le Lord protecteur du Commonwealth d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, a banni indirectement ce dessert sucré comme un péché. Inspiré par des croyances religieuses strictes, l'homme d'État souhaitait purger la société britannique des plaisirs superflus, y compris les festins de Noël riches en sucre et en alcool qu'incarnait en tout point l'infâme gâteau aux fruits. Il peut se conserver plus de 140 ans. La grande quantité de sucre et d'alcool contenue dans le gâteau aux fruits empêche les micro-organismes, comme les moisissures, de s'y développer. Une famille du Michigan, aux États-Unis, possède par ailleurs le doyen des gâteaux aux fruits dans le monde, préparé en 1878. La dernière bouchée, prise en décembre 2003, lors d'une émission de grande écoute, a cependant confirmé qu'il goûte davantage la poussière que les fruits. Il aurait gagné le Québec vers les années 1950. Nul ne sait exactement quand le gâteau aux fruits est apparu dans la belle province. Comme il est issu de la tradition britannique, il est probable qu'il s'est d'abord invité à la table des familles anglophones de Montréal avant d'être popularisé chez les francophones. Des tendances régionales se sont développées au fil du temps. Par exemple, la variété montréalaise comprend davantage de clous de girofle que d'autres, tandis que celle de Québec privilégie la muscade. Il a mauvaise réputation. Environ à la même époque, la production de masse a amené les usines alimentaires à réduire la quantité de noix et de fruits confits dans leur préparation, ainsi qu'à éliminer l'étape critique de la macération dans l'alcool. Il en a résulté un gâteau sec et dur, ayant peu à voir avec les recettes traditionnelles. Il a déjà été dans l'espace. En 1969, lors de la mission Apollo 11, les premiers humains à marcher sur la Lune ont emporté avec eux un gâteau aux fruits aux ananas emballé sous vide. Néanmoins, le dessert est revenu sur Terre sans avoir été mangé. Il fait désormais partie des collections du National Air and Space Museum à Washington, mais il n'est pas exposé au public. Une blague télévisée en a fait un gag récurrent. En décembre 1985, l'animateur américain Johnny Carson a relancé la mauvaise réputation de ce dessert pendant son émission de variété, affirmant « C'est le pire cadeau de Noël. Il n'existe qu'un seul gâteau aux fruits dans le monde et les gens passent leur temps à se le redonner. » Largement reprise, cette blague a renforcé l'idée populaire voulant que ce classique des fêtes soit en fait un cadeau indésirable. La qualité change tout. Des ingrédients choisis avec soin et des traditions bien ancrées donnent raison aux défendeurs et aux défendresses des gâteaux aux fruits. Voici deux boulangeries québécoises qui redonnent à la pâtisserie ses lettres de noblesse. Toc et tablier, la boulangerie artisanale de Saint-Léonard prépare un gâteau aux fruits confits vieilli 5 ans, durant lesquels il a été à maintes reprises badigeonné de rhum. La boulangerie Grant's, cette boulangerie de Huntingdon, est reconnue pour la générosité de ses produits, qui contiennent un minimum de 55 % de fruits confits. C'était 9 faits délicieux sur le gâteau aux fruits, un texte commandité, paru le 1er décembre 2025 dans la presse.
Protéger la Lune, un texte de Chantal Srivastava, publié dans l'actualité édition de mars 2026. Plus d'un demi-siècle après le dernier séjour d'humain sur la Lune en 1972, la course à l'espace est aujourd'hui relancée et, faute de protection adéquate, la Lune risque gros. Alors que les États-Unis et la Chine sont en concurrence pour être les premiers à faire allunir leur équipage d'ici 2030, le traité sur l'espace extra-atmosphérique ratifié en 1967 ne suffit plus. Ce texte, qui balise les activités humaines dans l'espace, doit être revu afin d'éviter que ce retour sur la Lune ne dégrade irrémédiablement notre unique satellite naturel, un précieux objet d'étude pour bon nombre de disciplines scientifiques. Le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique des Nations unies a d'ailleurs mandaté un groupe de travail afin d'étudier les aspects juridiques des activités relatives aux ressources spatiales, dont le rapport final est attendu pour 2027. En vertu du traité de 1967, aucun État ne peut s'approprier la Lune. Mais aujourd'hui, les États n'ont plus le monopole des activités spatiales. Les entreprises privées telles que SpaceX ou Intuitive Machines participent à l'aventure en fabriquant des lanceurs et des alunisseurs. D'autres, comme iSpace, s'intéressent aux ressources lunaires. Or, les dispositions du traité sont beaucoup plus vagues en ce qui a trait aux activités commerciales menées par le secteur privé, par exemple l'exploitation de mines sur la Lune, à la fois nécessaire pour alimenter de futures installations lunaires et utile pour obtenir un approvisionnement supplémentaire en certaines matières premières requises sur Terre. De plus, le secteur privé est appelé à jouer un rôle important dans l'établissement d'installations permanentes sur la Lune, un des buts poursuivis tant par les Américains que par les Chinois, ce qui soulève la question de l'appropriation des ressources lunaires. Parmi les ressources d'intérêt, il y a de l'hélium-3, une potentielle source d'énergie. La Lune recèle également de terres rares, fort utiles en électronique, de même que, sous ses pôles, de la glace, dont les humains pourraient tirer non seulement de l'eau, mais aussi de l'oxygène et de l'hydrogène. D'où la nécessité de prévoir dès maintenant des mesures de protection pour éviter que notre satellite naturel ne se change en Far West, car sur le plan scientifique, il y a encore beaucoup à nous apprendre. Sur la Lune, l'absence d'oxygène permet de préserver des vestiges de l'histoire du système solaire depuis sa formation il y a 4,5 milliards d'années. Un patrimoine qu'il faut à tout prix protéger. À l'heure actuelle, le Comité sur la recherche spatiale assure la coordination à l'échelle internationale pour tous les projets dans l'espace. Mais avec le retour de l'humain sur la Lune, les risques de dérive sont bien tangibles et des scientifiques cherchent à les prévenir. Une des mesures envisagées est la désignation de sites d'intérêt scientifique particulier, un peu à la manière des réserves naturelles sur Terre. Une façon de protéger la Lune de la contamination terrestre et d'empêcher la destruction de lieux riches d'enseignement. De concert avec le Comité sur la recherche spatiale, un groupe d'experts a établi 3 catégories de sites à préserver au nom de la science. Avec ses zones à l'abri de la lumière du Soleil, la face cachée de la Lune arrive en tête de liste, spécialement au pôle, là où la glace pourrait encore contenir des traces de composés capables de nous renseigner sur les origines de la vie. D'où l'importance d'intervenir avant le début des prélèvements à des fins d'exploitation. La deuxième catégorie de sites englobe des zones favorables aux observations astronomiques, propices au déploiement d'instruments tels les télescopes ou des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Pour garantir la qualité des observations, ces lieux doivent à tout prix être protégés de la poussière, des vibrations et même des ondes radio. Il est donc essentiel d'y interdire d'emblée toute activité autre que scientifique. Le dernier type de site concerne des secteurs uniques qu'il faut protéger de toute dégradation afin de mieux les étudier, comme les tunnels de lave lunaire, ces canaux qui permettent d'aller sous la surface de la Lune et qui pourraient être détruits par des mines ou différentes installations. Même les lieux d'alunissage des missions à venir doivent être choisis de manière à préserver l'intégrité des zones d'intérêt pour la science. Alors que les humains se préparent à retourner sur la Lune, nous avons besoin de mesures de protection claires et bien définies. Et la science a son mot à dire. Sinon, les prochains pas de l'humain sur la Lune risquent de se transformer en bond de géant pour le secteur privé, mais un recul pour la quête de connaissances. Fin de ce texte titré « Protéger la Lune », signé Chantal Srivastava, publié dans l'actualité édition de mars 2026.